Mesdames, messieurs, voici sa première et on lui souhaite la bienvenue dans la grande famille de Morel Live, Étienne Alexandre Beauregard. Salut, comment ça va?
Salut Dominique, ça va bien? Ben oui, j'adore le jingle.
C'est à ta demande. C'est à ta demande. C'est-tu quelqu'un que t'apprécies? C'est-tu quelqu'un que t'as écouté beaucoup, Bob?
Ben écoute, quand j'étais au primaire, oui. On était plusieurs là, qui aimaient bien ça. Là, c'est sûr, depuis le temps, j'ai un peu arrêté. Mais oui, à une époque,
ouais, on reste encore Cap-Rouge, jeune.
Ça pognait bien gros.
Yes sir, on reste encore jeune, c'est bon. Ben bienvenue à Radio X dans Morel Live. Très content de te jaser. Aux deux semaines, c'est le fun. Bon, regarde, plongeons d'entrée de jeu. Tu veux analyser le sondage. C'est un sondage qui est catastrophique pour la CAQ, pour le Parti libéral, assurément. Et le vote résiduel, si tu veux, la perte du Parti libéral s'en va du côté du PQ, étonnamment. Comment tu lis ça, ce sondage-là, ce matin?
Bien, c'est sûr que si l'élection avait lieu aujourd'hui, ça serait probablement un résultat comme celui que la CAQ a eu en 2022. T'sais, quand dans notre système électoral surtout, t'sais, où c'est premier dans un comté qui gagne tout, quand c'est 40 puis que le deuxième est à 20, tu peux vraiment tout ramasser. T'sais. Mais moi, au-delà de ça, au-delà de l'aspect partisan, ce qui m'intéresse, c'est de voir que, grosso modo, le PQ, la CAQ puis le PCQ, qui essayent de chasser un peu le même électorat depuis cet automne, là, ensemble, ils ont 70% du vote et 80% du vote des francophones. Fait que ça dit qu'il y a clairement une tendance. En tout cas, si on regarde là, avec Zoom Out, là, les tendances idéologiques au Québec, il y a vraiment quelque chose qui se dessine là, je trouve.
Ben oui, c'est l'échec du Parti libéral. Quand tu regardes les comtés francophones, le Parti libéral, c'est quasiment inexistant, là.
Ah oui, c'est clair. Puis tu sais, tu regardes, moi des fois, là, je me dis, tu sais, moi j'ai quitté la politique active au mois d'août,
oui.
Puis j'ai l'impression que justement, ça jouait au hockey quand je suis parti. Puis là, on dirait tout le monde s'est mis à jouer au baseball. Là. C'est comme si la table a été un peu revirée de bord depuis l'automne, avec la CAQ qui est arrivée avec un discours d'ouverture, qui veulent se recentrer un petit peu sur le centre-droit, en attaquant les syndicats, en revenant sur la question de l'identité, en essayant de couper dans la fonction publique. La réaction du PCQ, qui était quand même assez surprenante, t'sais, on sait que d'habitude, PCQ puis la CAQ, c'est un peu le feu puis l'eau. Mais là, Éric Duhaime, il a été assez conciliant. Il a dit qu'il y avait de l'ouverture, que si le gouvernement allait vraiment dans cette direction-là,
oui.
Lui, il allait suivre puis il allait appuyer, autant sur les syndicats que sur la Constitution. Et plus étrange encore, on pourrait dire, le PQ, qui est comme habituellement un parti de centre-gauche, on va le dire, là, sur la question des syndicats, se sont distanciés un petit peu de Magali Picard, même s'ils sont contre la réforme du gouvernement. Sur la question du soutien aux entreprises, Mario Dumont a fait une chronique il y a quelques semaines là-dessus, comme quoi le PQ a un peu abandonné sa politique traditionnelle d'interventionnisme de subventions aux entreprises. Et même hier, je ne sais pas si tu as vu ça sur Twitter, Dominique, mais le tweet de Paul-Saint-Pierre Plamondon contre le milieu culturel québécois avec leur réaction à la nomination de Mark Miller, où il dit, et je cite, « La vacuité intellectuelle et l'aplavantrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants. J'ai honte. » C'est pas le PQ qu'on est habitué, là. On dirait que tout le monde est en train de changer un peu, là.
Absolument, parce que lui, il se désole du fait que le milieu culturel, ben, c'est issu un peu de Guillaume Lepage en fin de semaine, pleurait parce que, hein, ben, gars, ils ont perdu Guilbeault, puis Guilbeault s'en allait aider les artistes, puis là, c'est gimme, gimme, gimme. Donc, c'est une attitude de quêteux envers le fédéral. Et c'est ce qui dégoûte Paul Saint-Pierre Plamondon dans son tweet, là.
Ouais, ben, surtout, c'est parce qu'on s'entend que le PQ, puis le milieu culturel, d'habitude, c'est très proche.
C'est fusionnel.
Fait que là, ben exact, qui ose aller contre directement, frontalement, le petit vacuité intellectuelle, on est pas loin de dire qu'ils sont un peu niaiseux, là, on s'entend. Fait que moi, je trouve que c'est quelque chose. Là. J'ai l'impression que tous les partis, en tout cas qui ont l'ambition de parler aux électeurs francophones, se rendent compte que la tendance dominante, c'est une espèce de nationaliste de centre-droit. Fait que même des gens qui sont pas portés vers ça spontanément, ont l'air de se rediriger vers ça. Fait que je pense que ça va être intéressant à suivre au Québec, là, au moins pour la prochaine année.
Comment les plaques tectoniques bougent cet automne? T'sais, avec toi, c'est ça qui est le fun de jaser, c'est qu'on va parler des grandes tendances, ce qu'on fait avec Yann, ce qu'on fait avec Caron à l'international. Donc, c'est à vol d'oiseau, on va regarder les grandes tendances et les grands mouvements. Comment tu analyses ça ce matin, l'échiquier politique?
Ben moi, j'ai l'impression que c'est un peu la confirmation d'une tendance qu'on voyait depuis longtemps. T'sais, moi, j'ai écrit deux livres sur la politique québécoise avant de sortir celui que j'ai sorti cet automne.
Oui.
Puis ma thèse, un peu de fond, c'était de dire que depuis le début des années 2000, on dirait que le nationalisme québécois se ressente un petit peu plus vers la droite par rapport à la gauche, tu sais. On voit que, historiquement, on le sait, dans les années 60, et surtout avec le Parti québécois, tu sais, qui a supplanté l'Union nationale, c'était vraiment, tu sais, les syndicats grands alliés du nationalisme, puis c'était la construction de l'État-providence, etc. Mais là, en fait, je sais pas qui est-ce qui a brisé ce pacte-là en premier, mais tu sais, on regarde la gauche contemporaine, on est beaucoup plus dans le multiculturalisme, voire le wokisme à l'occasion que le nationalisme. Puis, en tout cas, moi, ça fait des années que je vois un peu cette espèce de clivage-là entre la gauche puis le nationalisme. Puis là, on dirait que ça s'incarne plus que jamais, là, que les gens se rendent compte aujourd'hui que d'abord, les nationalistes au Québec sont pas mal plus à droite qu'à gauche maintenant, et que l'ancienne gauche, entre guillemets, puis les institutions qui représentaient ça veulent plus rien savoir du nationalisme. Fait qu'on dirait que c'est comme, depuis des années, ça se prépare, mais là, j'ai l'impression que on se rend compte qu'aujourd'hui, les nationalistes au Québec sont plus à droite qu'à gauche.
Et définissons à droite. Qu'est-ce qu'on peut définir comme à droite? C'est parce que tu as le côté social avec l'immigration, tu as le côté économique aussi. Comment qu'on pourrait définir la nouvelle droite qui se dessine actuellement sous nos yeux, là?
Ouais, c'est sûr que ben au Québec, on s'entend, la question identitaire, c'est toujours assez gros. Fait que, tu sais, autant la préoccupation.
Peux-tu l'appeler la droite de bas côté à ce moment-là? Tu sais, la droite identitaire, c'est
ouais,
toi.
Ouais, ben, si tu veux dire la droite identitaire, il y a ça. Mais c'est que, comme justement ce que je disais un peu sur le lien un peu entre la gauche et le nationalisme, je pense que ce que tu appelles la droite identitaire, la droite de bas côté, oui, en guillemets, se rapproche peut-être plus de la droite Éric Duhaime qu'elle l'a déjà été par
oui,
le passé. Tu sais, de dire. Il y a beaucoup de nationalistes maintenant qui sont très lucides sur l'État-providence puis qui voient que ça atteint ses limites.
Ben, qui
alors
constate
que
la faillite.
Avant.
C'est ça.
Ben oui.
Mais qui a fait bouger les plaques? T'sais, moi, je pense que, tu sais, on jase, on fait de l'analyse à chaud, là, en ondes, live. Là. Moi, je pense que c'est y a le ras-le-bol de la classe moyenne. Il faut que tu parles des masses. Il faut que tu parles de la classe moyenne. Moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol la classe moyenne qui est confrontée à un modèle exsangue, un modèle qui ne fournit pas les services. Il y a eu un réveil. Il y a une masse critique de gens qui votent et qui s'expriment et qui disent « Christy, je paye les garderies puis j'ai 3 ans d'attente. Je paye pour un médecin, j'ai pas de médecin. Je paye pour des routes, sont défoncées. Je paye pour des écoles, sont défoncées. J'ai pas les services. » Mon kid est rendu à 4 remplaçants cette année. On est rendu en début décembre. Moi, je pense que ça vient de là. Il y a un éveil collectif. T'en dis quoi?
Ah ouais, moi, je pense que t'as bien raison. Tu sais, juste regarde un peu la démographie politique du nationalisme au Québec. Ça a toujours été la classe moyenne puis les familles de la classe moyenne. Tu sais, de fait, là, un peu, si on regarde le bloc qui avait été, disons, traditionnellement proche du PQ, qui a passé à la CAQ depuis 2 mandats, puis que là, on dirait qu'il retourne au PQ. Là, évidemment, il y a les boomers et les retraités qui sont un contingent important, mais si on regarde les familles de la classe moyenne, ça reste ça aussi. T'sais, qui décide des élections au Québec? Si t'es capable d'avoir à la fois les boomers et les familles de la classe moyenne, t'as gagné, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Puis honnêtement, moi, je me posais la question, je me dis, est-ce que, en ce moment, le PQ est en train un peu de recréer la coalition que la CAQ a eu en 2018 pour gagner.
Ou sous l'évêque, que tu avais quand même un Jacques Brassard, mettons, tu avais ouais, une droite conservatrice. Tu sais, j'appellerais ça, c'était ça dans le fond, sous l'évêque, là, quand tu recules. Nous autres, on l'a eu Jacques Brassard ici longtemps comme chroniqueur. Là. Mais tu sais, c'est un nationaliste dans lequel je me reconnaissais. Là. Tu sais, je me reconnais à M. Brassard qui était longtemps chez nous, c'est-à-dire le gros bon sens. Tu sais, je comprends que c'est une expression galvaudée.
Ouais.
Là. Mais
non,
est-ce qu'on est
que
en train... Est-ce que le PQ tente... Je te dis pas qu'ils réussissent, mais je te dis pas qu'ils vont réussir. Mais est-ce que on voit, avec le tweet que tu as raconté de PSPP, est-ce qu'une volonté et le fait que PSPP a refusé d'aller s'adresser à FTQ, quoi qu'il y a délégué Paradis pour y aller, là, mais t'sais, il a envoyé quand même une remontrance à Magali Picard, est-ce que ça... Ça illustre un recentrage du PQ, selon toi?
Ben, moi, je pense que c'est assez clair que c'est ça qu'ils essayent de faire. Je pense qu'ils envoient beaucoup de signaux à cet effet-là depuis un petit bout. Mais cela dit, je pense que là où le PQ peut avoir plus de misère que la CAQ ou le PCQ, c'est qu'ils ont des appuis qui sont basés à Montréal également. Tu sais, le Parti québécois, il n'y a pas la même coalition, disons, que la DQ avait avant, tu sais, qui est basé beaucoup dans les régions, dans la région de Québec, etc., puis qu'il y a rarement de la représentation à Montréal. Même la CAQ a gagné un gouvernement super majoritaire avec juste deux comtés dans l'est de l'île qui sont pas les endroits les plus montréalo-typiques, disons. Là. Fait que je sais pas si le fait que ce parti-là, il y a beaucoup d'ancrage aussi dans des partis qui sont quand même assez à gauche à Montréal. Là. Moi, je pense que le PQ a encore des vues sur des circonscriptions comme Rosemont, ben, justement, les tractations avec Vincent Marissal puis tout. Fait que là, ça va être de voir à quel point tu peux garder une coalition large, parce que là, tu fais venir quelqu'un de Québec solidaire, puis tu veux faire un virage à droite, c'est comme c'est difficile. T'sais.
C'est ça le défi. Si t'étais conseiller d'Éric Duhaime, tu lui dirais quoi?
Oh, ouais, ça, c'est tough. Je pense que je dirais... Moi, honnêtement, là, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant, son attitude par rapport au discours d'ouverture de la CAQ. Je pense que d'avoir cette forme d'ouverture-là, d'être moins toujours dans la critique, ça fait en sorte aussi que des gens qui sont peut-être pas opposés à ce qu'il dit sur les idées, mais qui trouvaient que l'attitude, ça leur plaisait pas, etc., vont peut-être commencer à écouter. Puis c'est sûr que de reconnaître aussi que les électeurs, veut pas, qui ont ces idées sur l'économie, souvent vont être relativement nationalistes. Fait que, tu sais, peut-être d'aller un peu plus sur l'immigration, d'aller sur ces questions-là. Puis tu sais, c'est un peu tough, peut-être, quand on a sa coalition à lui, parce qu'on voit en ce moment, en tout cas dans le sondage léger, le PCQ était plus populaire avec les non-francophones qu'avec les francophones. Je ne sais pas comment il peut faire cet arbitrage-là. Là, ça, c'est pas un enjeu que la CAQ et le PQ ont, mais ça va être à lui de voir, j'imagine.
Je le sais que tu étais son speechwriter, mais quand même, tu peux te permettre de plonger. Tu n'es plus proche de Legault, mais tu l'as côtoyé à tous les jours. Tu étais son conseiller, en fait, l'un de ses conseillers. À la lumière du sondage de ce matin, est-ce que François Legault doit réfléchir? Ça fait mal, là, le sondage, le matin, là. Étienne Alexandre, là. Ça fait mal en maudit, là.
Ouais, c'est sûr. Ben moi, pour vrai, j'ai...
EA, là, il dit quoi? EA? Puis... EA Sports, ouais, ce matin? Pas facile, là.
Non. Sur cette question-là, honnêtement, moi, je pense que...
Mais sans parler des individus, tu peux parler de l'existence de ce parti-là. C'est-à-dire que il coule à pic. C'est un parti qui... a des bonnes idées. T'sais, quand je dis des bonnes idées, je l'ai dit tantôt. T'sais, Boulay, ça rejoint le monde. Puis le projet de loi sur la laïcité, ça rejoint beaucoup de monde. Moi, je me reconnais là-dedans. Le recentrage laïque, laïcité 2.0, moi, je trouve ça essentiel. Je me reconnais là-dedans. Mais force est de constater que le parti est hypothéqué, là. EA, tandis quoi?
Ouais, ben c'est ça qui est un peu pervers, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en même place que toi.
Oui.
Tu sais, puis le bloc électoral que je viens de te décrire, les 70% de francophones qui sont globalement nationalistes, globalement centristes, centre-droit, ben c'est ça un peu la coalition de rêve de la CAQ, tu sais. Puis tu regardes notamment sa question constitutionnelle, tous ces gens-là sont pas indépendantistes, là. Puis ça, c'est un autre défi que le PQ a, parce qu'il y a un quart du monde qui vote pour lui qui sont fédéralistes.
Oui.
Fait que, tu sais, de fait, c'est un peu la victoire des idées de la CAQ, même si le parti piétine. Puis après, tu sais, l'usure du pouvoir, ça arrive. C'est comme difficile un peu à expliquer puis tout, mais sur le plan des idées, je pense pas qu'ils sont à la mauvaise place, si tu regardes les Québécois. Fait que c'est ça, c'est un peu ça qui est embêtant, là. Mais après, moi, je me méfie toujours des quick fix, tu sais, parce que là, les gens, ils ont vu, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec Mark Carney à Ottawa, puis là, ils pensent qu'on peut juste faire ça tout le temps, tu sais, dire, ah, t'amènes quelqu'un d'autre, puis là, tout le monde va t'aimer d'un coup. Moi, je pense que c'est plus compliqué, puis qu'il faut se méfier de ces choses-là. Surtout un parti que, tu sais, M. Legault, c'est quand même le chef fondateur de la CAQ. C'est un peu lui la colle qui tient ce parti-là ensemble. Fait que moi, je dis toujours, là, le mieux est l'ennemi du bien, puis il faut faire attention, tu sais, parce que si tu te débarrasses de celui qui a fondé le parti, celui qui tient ça ensemble, tu vas peut-être te retrouver avec plus de problèmes que ce que t'as quitté, tu sais. Fait que moi, je fais toujours attention avec ces calculs-là ou ces choses-là qui nous semblent trop beaux. Tu sais, des fois, ça peut être un mirage.
EA, merci beaucoup. Étienne Alexandre, as-tu quelque chose à rajouter pour ta défense? T'es correct? Ça va bien?
Hey, mais félicitations. Ta défense? Non, je pense que c'est
félicitations pour ta mention d'honneur par... c'est le Figaro, hein? Je pense qu'il t'a donné une mention d'honneur pour ton livre.
Ouais, exactement, sur le prix de l'essai jeune de l'année que l'Incorrect m'a donné la semaine dernière. Ça m'a fait vraiment plaisir. M'attendais pas à ça, mais c'est toujours le fun.
L'essai jeune de l'année dans la francophonie, dans le fond, là. Dans toute la francophonie.
Ouais, en France, exact.
C'est extraordinaire.
Ah, écoute, merci.
Mais faudrait que le livre se vende. Il se vend-tu pas pire? C'est un livre niché, on comprend, c'est un livre intellectuel. C'est pas un Bolébile ou un Lucky Luke, là. On est d'accord là-dessus, là. Mais dans les cercles intello, là, t'as scoré en maudit, là.
Ouais, pour vrai, je pense que ça va bien se vendre. Puis là, déjà, avec le distributeur au Canada, il me disait qu'il commençait à en manquer, puis qu'il y avait des nouvelles commandes, puis tout. Oui. Fait que je pense que ça se vend bien, pour vrai. Mais ça, c'est difficile à le savoir jusqu'à ce qu'on ait le rapport un an plus tard, là. Mais bref.
Bravo. Merci beaucoup, Étienne Alexandre.
Merci à
Bonne
toi.
Bonne semaine. Ciao.